avec nous François Pupponi, qui est député depuis 2007 à l'Assemblée, à la 8e circonscription de l'Oise. Vous êtes également ancien maire de Sarcelles pendant 20 ans. Vous êtes, bonjour d'abord.
Bonjour.
Vous êtes d'origine corse, il y a beaucoup de Corses à Sarcelles ?
Oh, un peu, pas beaucoup, mais il n'en reste pas beaucoup, mais ils étaient nombreux pendant un certain temps, oui.
Et c'est avec eux que vous êtes venu vous
c'est
installer.
Mon père et mes parents qui se sont installés à Sarcelles en 1962.
Avant de commencer à parler de votre livre qui est paru il y a de cela quelques semaines, qui s'appelle « Les Émirats de la République, comment les islamistes prennent la possession de la banlieue » aux éditions du Cerf, quand on s'engage en politique au début, c'est pourquoi ?
Ben, on s'engage en politique au début parce qu'on a des convictions, des idées et qu'on a envie de s'occuper de la ville dans laquelle on vit. Et quand on voit que les choses ne vont pas dans le bon sens, on essaye de dire bon, on va essayer d'être utile aux autres. Et donc on s'implique dans la vie de la cité.
Vous avez été apparenté Parti Socialiste. Pourquoi vous avez quitté le Parti Socialiste ?
Écoutez, moi je suis resté, j'ai toujours été au Parti Socialiste. Hein. J'avais même créé la section des jeunes socialistes à Sarcelles. J'y suis resté pendant plus de 40 ans. Pourquoi ? Parce que il y a un moment, vis-à-vis des relations avec moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est-à-dire l'islam radical, l'islam politique, et par rapport à mon amitié pour Israël, je voyais bien qu'il y avait un changement. Et qu'à un moment, on était en désaccord. Voilà, et donc, j'ai posé des questions sur savoir comment le Parti Socialiste se positionnait par rapport à ça. Je n'ai pas eu les réponses, donc j'ai préféré quitter parce que, voilà, à un moment, il faut, quand on a des convictions, on ne reste pas dans un parti si ces convictions ne sont pas partagées.
Les Émirats de la République, d'abord, le titre. Pourquoi c'est un titre qui a été recherché ou c'est arrivé assez rapidement ?
Non, c'est assez rapidement. Bon, c'est un titre un peu provocateur, mais c'est pour intéresser aussi le lecteur et lui dire voilà ce qui se passe. L'idée, c'est le témoignage d'un élu qui, depuis plus de 20 ans, a été maire d'une ville emblématique de la banlieue et qui voit les choses évoluer. Et l'élu que je suis considère que, au niveau national, les gens ne voient pas ce qui se passe. Et donc, je sentais qu'il était de ma responsabilité de témoigner.
Alors, on va en parler de votre livre juste avant. On parle souvent de Sarcelles ou le département de l'Oise comme une ville exemple de multiculturalisme. C'est vrai,
c'est vrai. Sarcelles, c'est une ville très particulière où il y a des grandes communautés. Elle a été peuplée à base de communautés et où les communautés religieuses sont très importantes. On a une forte communauté juive, on a une communauté chaldéenne très importante également et puis on a une forte communauté musulmane. Donc effectivement, on a souvent appelé ça la petite Jérusalem. Dans le quartier où nous sommes, qui est le quartier de la communauté, il y a des musulmans, des juifs, des chaldéens et tout ça cohabite depuis tant d'années plutôt intelligemment. En tout cas, tout ça cohabitait intelligemment jusqu'en juillet 2014.
Alors, on va parler, vous l'avez dit dans votre introduction, vous expliquez pourquoi vous avez écrit ce livre, mais je n'ai pas vu pourquoi maintenant.
Alors, pourquoi maintenant ? D'abord, moi j'ai écrit ce livre aussi pour qu'on arrête de mélanger les musulmans, les islamistes, les djihadistes. La quasi-totalité des musulmans de France ne pose pas de difficultés. Et ils sont complètement intégrés à la société française. Ils sont citoyens à part entière. Ils respectent les lois de la République. Pourquoi maintenant ? Parce que je constate qu'au sein de cette communauté est en train d'arriver un islam radical et un islam politique. Et que l'arrivée de cet islam politique et l'islam radical peut mettre en péril et l'avenir de cette communauté et le vivre ensemble et globalement attaque les fondements de la société française.
Alors pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant ?
On a pu l'écrire en 2004, en 2003.
Non, parce que moi je l'ai constaté l'évolution à partir de 2015-2016. C'est tout à fait récent. Et ça s'est confirmé en 2017. Et ça prend de l'ampleur maintenant. Donc, compte tenu de la gravité de ce que j'ai pu constater, j'ai décidé de dire on va réagir.
Alors, vous expliquez, donc, on l'a dit dans le début du livre, à différentes raisons pour lesquelles vous avez voulu écrire ce livre. Il y en a une qui vous tient plus particulièrement à cœur qu'une autre raison. Il y a quelque chose qui pour vous est très important.
Le déclic, ça a été la manifestation antisémite de 2014. Ce déclic-là, à Sarcelles, ça a été le basculement. J'ai vu la ville où j'ai grandi basculer dans autre chose et j'ai dit ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, c'est à partir de là que j'ai dit on ne peut pas ne pas faire quelque chose.
Non. Vous étiez là, ce jour-là
Je suis arrivé en fin d'après-midi. J'étais en province, je suis rentré en catastrophe pour être là en fin d'après-midi.
D'accord. Quand on voit ça et qu'on se rend compte qu'après, dans toutes les télévisions du monde, on voit ces images, etc., quelques années après, ça fait pratiquement maintenant 10 ans. Quel regard vous en portez sur cette histoire quelques années après votre ressenti, en tout cas votre analyse.
Mon regard, il est le même. Hein. C'est exactement ce que je savais. Certains ont essayé de monter les uns contre les autres, ont fait venir la haine antisémite à Sarcelles. Et donc, voilà, ils y sont parvenus ce jour-là, puisqu'il y a une horde de sauvages qui s'est attaquée à la synagogue. Et donc, il faut maintenant lutter contre ça, éviter que plus jamais cela n'arrive et faire en sorte que l'on puisse de nouveau vivre en bonne intelligence à Sarcelles. Mais pour ça, il faut prendre des décisions, il faut prendre des mesures.
Alors, en lisant votre livre, on se rend compte que vous n'épargnez personne, ni les présidents de la République, ni les premiers ministres, ni le gouvernement, ni personne. Vous aviez besoin de régler vos comptes.
C'est pas régler ses comptes, c'est dire ce qui se passe, dire ce que j'ai vécu et faire un témoignage pour que notre pays soit capable d'apprendre ce qui se passe. Voilà. Et donc moi, je suis pas en train de dire c'est la faute à tel.
Je dis, voilà, vous dites que...
Non mais c'est la faute, globalement je mets en cause la France. C'est la France qui a fait tout ça, c'est la France qui est responsable de tout ça. Voilà, donc...
Êtes député, donc...
Mais j'ai une part de responsabilité. Donc je dis, voilà, notre pays est en train de se tromper. Et s'il n'a pas un sursaut d'intelligence, un sursaut républicain, on va à la catastrophe. Voilà. Et je reconnais moi-même avoir fait des erreurs et avoir une part de responsabilité dans tout ça. Et donc la question, c'est voilà où on en est. Voilà ce que l'on fait. Voilà ce que l'on a fait. Voilà ce que l'on n'a pas fait. Et donc reprenons-nous. Voilà.
Alors quand on parle avec les gens autour de nous, on en parlait tout à l'heure avec mon ami qui est à mes côtés, islamistes, djihadistes. Qu'est-ce qui se passe à Sarcelles? Ce sont des djihadistes, des islamistes.
Non, mais c'est là où la France a tort et où je pense qu'on est en train de se tromper. Je répète, à Sarcelles, comme ailleurs, la quasi-totalité des Sarcellois de confession musulmane ne pose aucun problème. Ils sont ni islamistes, ni djihadistes.
De quoi en proportion à peu près?
Mais c'est 90%, 90%, 95%. Ce sont des citoyens français à part entière qui veulent vivre leur foi en toute tranquillité et qui n'en veulent à personne et qui n'ont aucun ressenti vis-à-vis des autres. Au sein de la communauté musulmane, il y a maintenant un islam radical, des gens qui ont une vision très rigoriste de l'islam, qui essaient d'infiltrer la communauté musulmane, et puis un certain nombre de jeunes, très minoritaires, nous on a eu quelques départs pour le djihad, des Français de confession musulmane qui décident de partir faire le djihad contre leur pays, contre la France. Bon, c'est ça la réalité. Mais il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tout. On considère que tous les musulmans sont djihadistes, on considère que tous les musulmans sont islamistes. Il faut bien faire la distinction.
Justement, c'est quoi la définition la plus proche de l'islamisme, de ce que vous combattez? Comment on peut résumer en...
Moi, selon je dis que c'est un danger pour notre pays, c'est deux choses. C'est ceux qui ont une vision très rigoriste, les salafistes, une vision très rigoriste de l'islam et qui considèrent que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République. Ça, c'est un danger pour la République. Deuxièmement, il y a ceux qui décident de se présenter aux élections avec un programme lié à l'islam uniquement parce qu'ils sont dans l'islam politique. Et de dire, voilà, nous, on veut aussi que les lois de l'islam soient plus importantes que les lois de la République. C'est ça qui est dangereux. C'est ceux qui décident de ne pas accepter les lois de la République. Ce qui n'est pas le cas de la quasi-totalité des musulmans. Et donc, il faut lutter contre ça, contre ce que le président de la République a appelé le séparatisme.
Alors, on va revenir sur une partie de votre livre. Vous parlez de la diversité des jeunes. Mmh. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu victimes, ces jeunes-là?
Non, faut qu'on arrête. Non, il faut qu'on arrête avec la victimisation et la culpabilisation.
Non, la victime par rapport à eux qui sont... récupérés par l'islamisme.
À la fois, certains sont victimes, bien entendu. Ceux qui sont en perdition peuvent être récupérés et ils sont des victimes potentielles. Et puis il y en a, sont acteurs et complices. Il y a des jeunes issus de la diversité qui décident de passer des deals avec ces réseaux-là dans le cadre d'une prise de pouvoir politique. Donc il y a deux types de jeunes. Il y a ceux qui ne sont pas concernés, qui ne veulent pas discuter avec ces gens-là. Il y a ceux qui sont victimes et qui vont être récupérés par eux en étant victimes. Et puis il y a ceux qui sont complices. Bien sûr qu'il y en a.
Et au niveau de cette jeunesse, vous avez beaucoup travaillé sur ce plan-là. Est-ce que vous pensez avoir réussi à endiguer un peu cette jeunesse, à la mettre dans le droit chemin?
Bien sûr.
Compliqué.
Les politiques éducatives qu'on a menées depuis 20 ans ont eu des résultats. Et si Sarcelles est une ville relativement exemplaire, c'est aussi grâce à ça. Parce que la plupart de ces jeunes ne posent pas des vieux. Ils demandent juste à être encadrés, aidés, éduqués, formés, enseignés. Et donc, on y arrive. Après, il y a une partie des jeunes, une minorité, mais une partie quand même, que nous n'avons pas pu encadrer. Et donc, cela, il faut trouver des solutions.
Vous l'avez dit aussi dans le livre, et on en a parlé tout à l'heure, on a l'impression, effectivement, que la République, la France, est soumise. à cet islamisme. C'est d'accord, c'est pas d'accord?
Non,
vous racontez dans le livre qu'il y a des fois...
C'est pas de la soumission. Aujourd'hui, il y a à la fois de la complicité, de la naïveté, de la faiblesse, de la peur. Les gens, les responsables politiques, ne savent pas aborder le problème. Ils ne savent pas parler aux musulmans, ils ne veulent pas s'opposer aux islamistes. Et donc, à force de ne pas prendre de décision, on laisse à nos adversaires le terrain vague et le champ libre. Voilà. Et donc, c'est à la fois un mélange d'incompétence, de complaisance, de peur, d'incapacité à faire, et qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de s'affronter réellement à ces individus.
Vous dites dans votre livre que de temps en temps, vous avez fait des entorses un peu aux lois de la République pour essayer de trouver une entente. Est-ce que ça devient obligatoire de s'arranger ou de...
Oui, parce que les communautés religieuses ont des revendications que je considère comme être des revendications légitimes.
Qu'est-ce qu'on...
Elles nous demandent, de les aider à financer des lieux de culte.
Ouais.
Elles nous demandent, que ce soit la communauté juive ou musulmane, d'avoir des carrés respectueux des règles religieuses pour les obsèques. Et elles nous demandent également de les aider, lorsqu'il y a les grandes fêtes religieuses, à avoir des locaux pour pouvoir pratiquer leur religion. Dans les trois cas, lorsque vous aidez ces communautés, et les revendications me paraissent légitimes, vous transgressez quelque part la loi 1905. Mais comment voulez-vous que dans une ville comme celle-là, où l'église du XIIe siècle a été rénovée par la mairie avec plus de 4 à 5 millions d'euros d'investissement, vous disiez aux juifs, aux musulmans, à vous, non, vous, on ne peut rien faire pour vous. C'est incompréhensible, c'est inaudible. On ne peut pas dire à des gens...
Il y a une loi, après, vous êtes là pour respecter les lois, non ?
Oui, mais la loi, elle dit, les églises qui existaient avant 1905, la mairie doit les rénover. Elles appartiennent à la mairie, parce que c'est l'histoire de France. Il y a un texte de Napoléon qui dit on peut s'occuper des problèmes de sécurité dans les synagogues. Et les mosquées, on ne peut pas. Voilà. Donc vous dites aux musulmans, ah ben vous n'étiez pas là à la bonne époque, donc on ne peut rien pour vous. C'est incompréhensible. Donc qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Ils vont demander à des pays étrangers de financer. On dit, ah ben c'est pas bien, vous demandez à des pays étrangers de financer. Donc qu'est-ce qu'on veut? Que ce soit des pays étrangers qui financent, ou est-ce qu'on veut que les musulmans de France y trouvent leur place? Donc la question, elle est posée. Voilà. Et si on croit qu'on a réglé le problème de la religion en France en 1905, on se trompe. 1905, c'est une date importante qui repose des principes. Mais on peut adapter ces principes sans transgresser la laïcité à la France de 2020.
On rappelle le titre de votre livre, François Pupponi des Émirats de la République aux éditions du CERF. On parlait de soumission et parce que la question va vous être posée. On a vu cette semaine un livre qui est sorti sur... une entente entre Jean-Christophe Lagarde et des membres du gang des barbares. Vous, ça ne vous étonne pas?
Alors bon, je ne connais pas particulièrement ces histoires. J'ai découvert ce livre, je vois bien ce qui se dit. Ce qui est sûr, c'est que dans un certain nombre de territoires, pour garder ou gagner des élections, il faut accepter ou pas de passer des accords électoraux avec des gens qui sont peu fréquentables.
Pourquoi vous n'êtes pas passé un accord?
Moi, j'ai toujours refusé. J'ai toujours dit que je préférais perdre sans eux que gagner avec eux. Voilà. Mais visiblement, et je sais que dans certains territoires, d'autres n'ont pas eu les mêmes scrupules.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Pour Christophe Lagarde, ça ne vous étonne pas?
Je n'ai pas dit que ça ne m'étonnait pas. Je ne connais pas le contexte de Jean-Christophe Lagarde.
A priori,
Si effectivement il a passé des deals, ce n'est pas acceptable. Mais non, je répète, je ne connais pas exactement. Je dois lire le livre. Je sais que beaucoup de choses ont été dites, mais je n'ai pas d'informations particulières sur ce qui s'est passé autour de Jean-Christophe Lagarde.
Actualité nous a rattrapé puisque la semaine dernière, le président de la République a parlé de séparatisme islamiste ou islam. C'est bizarre parce que il a parlé de séparatisme, pas d'islam radical. Ça vous a choqué?
Non, il a parlé des deux.
D'accord, autant pour
il
moi.
Il a raison, il n'emploie plus le mot communautarisme. Il a raison, parce que les communautés, en particulier la communauté juive, elle existe. La communauté juive de France, elle existe, elle a ses structurations, son organisation, mais elle ne remet pas en cause la République. Donc faire partie d'une communauté et défendre sa communauté, ce n'est pas être anti-républicain. Ce qui pose problème, c'est ceux qui font partie d'une communauté et qui veulent se séparer de la République. D'où l'intérêt de parler de séparatisme et pas de communautarisme. Les communautés en elles ne sont pas un danger pour la République. Ce qui est un danger, c'est lorsque la communauté veut sortir de la République. Et il a raison de dire que l'islam radical veut sortir de la République. Et donc de se battre contre cela. Donc moi j'étais au repas qu'il organisait avec quelques élus. J'étais là-bas, j'ai vu ce qui s'est passé et il a raison de le faire.
On va parler aussi maintenant de ces musulmans-là. Comment on fait la distinction entre un musulman républicain et un musulman, salafiste? Parce que vous l'avez dit aussi dans votre livre, il y a la taqiya, qui est une forme de mensonge, en fait, sur son comportement. Comment on fait la distinction?
C'est extrêmement compliqué. si effectivement, pour connaître, il faut essayer de déceler, la quasi-totalité des musulmans de France, je répète, ne pose pas de problème. Après, ceux qui pratiquent la taqiya, c'est un peu au service de renseignement, à savoir, il faut qu'il y ait des gens qui surveillent. Ça, le citoyen lambda et même l'élu ne peut pas le savoir. On n'a pas de formation spécifique pour le savoir. Donc ça nécessite un travail important de nos services de renseignement.
On va parler d'un des points aussi, c'est l'un des derniers que vous évoquez dans votre livre, concernant l'islam politique dans les communautés, ou en tout cas dans les régions ou dans la mairie. Ce qui me paraît bizarre, c'est finalement, vous avez très peur de ça, vous, particulièrement qu'il y ait des islamistes dans les conseils municipaux. Ça vous fait une vraie peur bleue. Pourtant, il y a des lois de la République qui sont... Ils sont quadrillés, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Pourquoi ça vous inquiète ?
Mais le processus de l'islam radical, c'est un processus international.
International.
L'islam radical et l'islam politique s'implantent partout. On l'a vu en Égypte, on l'a vu en Tunisie. Bon. Voilà. Et le principe de l'islam politique, c'est d'arriver à imposer les lois de la République, les lois de l'islam aux lois de la République du pays dans lequel ils vivent.
Il y a des lois,
mais les lois, elles se changent. Voilà. Et si vous prenez localement des pouvoirs, vous financez telle ou telle association, ou vous ne financez pas telle ou telle association. Donc voilà, ce processus, il est international, il crée des problèmes dans beaucoup de pays. Est-ce que la France est prête à accepter le risque ? Voilà. Et si on croit que les lois actuelles pourront éviter, dans certains territoires, ça, la France se trompe. Je pense qu'il faut prendre des mesures pour éviter l'avènement d'un islam politique et radical en France.
Les Émirats de la République, François Pupponi aux éditions du CERF. Quand on lit votre livre, à un moment, on se dit « c'est trop tard ». Est-ce que c'est trop tard
pour, Je pense que malheureusement, ça peut être trop tard pour certains territoires. Bon, mais ce n'est pas trop tard pour la France. Bon, et donc, s'il n'y a pas un sursaut, d'où l'intérêt de ce livre pour essayer d'alerter un peu, s'il n'y a pas un sursaut, effectivement, si on tarde un peu trop, ça sera peut-être trop tard.
J'ai déjeuné ce Shabbat avec une personne qui me disait que finalement, lui tout seul, moi, mon ami Alexandre ou vous, qu'est-ce qu'on peut faire de façon utile quand on est tout seul ?
Alerter, parler, dénoncer, informer, essayer d'éveiller les consciences. Voilà,
c'est ce que vous essayez de faire dans votre
livre ? C'est ce que j'essaie de faire, éveiller les consciences, alerter les autorités. Ne pas le faire, ça serait une grave erreur. En tout cas, moi, je ne voulais pas prendre cette responsabilité de me taire. Voilà, je pense que dans ces moments-là, il ne faut pas se taire.
Comment combattre l'islam radicalisme ?
Il faut le combattre d'abord en prenant un certain nombre de lois qui empêcheraient un certain nombre de choses. Et puis après, c'est un combat quotidien de militantisme, d'être sur le terrain, d'occuper l'espace. Parce qu'ils sont sur le champ politique, éducatif, culturel, donc il ne faut pas leur laisser la place. Il faut aussi combattre idéologiquement tout ça.
Alors, on ne va pas échapper. Les élections municipales, c'est dans quelques jours. Vous n'y êtes pas... D'ailleurs, vous ne vous présentez pas comme pour retourner à la mairie.
Oui.
C'est définitif.
Je suis sur une liste. Je suis candidat en troisième position sur une liste.
Qui est la liste de ?
Qui est la liste qui sans étiquette, où il y a des gens de bonne volonté à Sarcelles pour continuer à mettre en œuvre la politique que nous avons mis en œuvre depuis 25 ans quand nous avons pris cette mairie avec Dominique Strauss-Kahn.
Il y a un candidat qui devant vous qui est Patrick Haddad. Vous êtes non plus pas très gentil avec lui dans votre livre. C'est moi qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui lui manque ?
Ce qui lui manque, on verra. Mais bon, je pense qu'effectivement, depuis qu'il est maire, mais ce que je lui reproche principalement, c'est voilà, je pense qu'il a fait une faute grave en vendant un terrain municipal au réseau CIMG, qui sont les réseaux islamistes turcs. Voilà.
Je pense que il dit que c'est vous qui avez signé un papier.
C'est complètement faux. Il peut dire ce qu'il veut. J'ai discuté avec ces réseaux. Et quand j'ai découvert qui étaient ces réseaux, j'ai alerté tout le monde en disant que ces gens-là posaient une difficulté et qu'il ne fallait plus négocier avec eux. Et j'ai rompu toute négociation. J'en avais informé Patrick Haddad en disant « Regarde, fais attention qui ils sont ». Malgré cela, il a décidé de vendre. Voilà. Entre signer une lettre et vendre un terrain, il y a une forte différence. Je n'ai jamais vendu de terrain à ces personnes. Lui a vendu un terrain pour construire un centre culturel islamiste turc à Sarcelles. C'est sa responsabilité, il faut qu'il l'assume. Voilà. Et je pense que cette responsabilité-là, elle est dangereuse.
Pourtant, c'est vous qui l'avez installé, Patrick Haddad.
Oui, mais vous savez, il était dans mon équipe, j'ai démissionné, il est venu. Après, chacun prend sa droite. Et vous savez, le premier article qu'il a signé, c'était de dire « il faut tourner la page des années Pupponi ». Donc il avait ses droits, et c'est pour ça que j'avais quitté le conseil municipal. Mais j'ai quitté le conseil municipal aussi, après avoir voté contre la vente de ce terrain, en disant que je n'étais pas d'accord. On peut installer quelqu'un à la mairie, et puis après, on peut avoir des différences politiques. Voilà. Je ne cautionne pas la politique qui est la sienne, vis-à-vis de cela, entre autres. Et donc, je soutiens une autre liste aux élections municipales.
Deuxième point qui vous oppose, c'est les cholettes. Les cholettes, que vous avez vendu, dit-on, à Bugues pour faire des appartements, alors qu'on voulait qu'on retrouve un centre de spectacle à Sarcelles, là aussi.
Attendez, là, je crois, enfin, je pense pas, je vois pas en quoi cela nous oppose, puisque...
lui dit qu'ils auraient préféré peut-être que...
Mais Patrick Haddad était adjoint, il a voté la délibération pour vendre le terrain.
D'accord.
Il était adjoint, il a signé la délibération où il vendait le terrain. Il était pour. Donc je vois pas comment aujourd'hui il peut dire qu'il est contre. Et puis deuxièmement, là où je suis quand même très très étonné, c'est que le choix qui a été fait par la municipalité auquel il appartenait, ça a été de construire dans le quartier de la communauté des logements, en particulier d'accession à la propriété et également en location, pour accueillir les familles juives qui sont obligées de quitter la Seine-Saint-Denis et qui veulent venir vivre à Sarcelles. Ça a été fait en accord avec la communauté, à la demande de la communauté, qui disait « Nous n'avons pas assez de logements pour les Juifs, il faut construire des logements grands parce que dans des grandes familles. » J'ai accepté la demande de la communauté, j'ai donné des permis de construire dans ce quartier-là pour justement faire en sorte que les gens puissent, de la communauté puissent y vivre puisqu'ils ne pouvaient plus vivre ailleurs. Je serais quand même un peu étonné qu'aujourd'hui, on vienne me reprocher d'avoir fait ce choix-là. Enfin, que des membres de la communauté me reprochent d'avoir fait ce choix-là.
Alors, justement, il y a beaucoup de vos ennemis qui disent que vous êtes trop proche de la communauté juive, que vous êtes pratiquement, entre guillemets, évidemment, c'est leur terme, vendu à cette communauté pour on ne sait quelle raison. Vous répondez quoi à ces gens-là qui vous accusent de pro...
Mais attendez, moi, je n'ai jamais caché mon estime, mon amitié et ma solidarité avec la communauté juive de France et avec l'État d'Israël. Jamais. J'ai toujours affiché, parce que je considère que la communauté juive de France, elle doit être protégée. Elle est victime d'actes antisémites insupportables à Sarcelles et ailleurs. Et je dois considérer que quand on est un élu républicain, on doit défendre la communauté juive contre la montée de l'antisémitisme. Donc on me reproche de défendre une communauté qui est victime d'actes antisémites. Bon, mais j'assume d'avoir défendu cette communauté et de la défendre.
Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Vous leur dites qu'il faut de toute façon se battre contre les racismes et l'antisémitisme?
Oui, mais
quand
on a la chance à Sarcelles d'avoir une forte communauté juive, qui est elle-même victime d'actes antisémites et qui se pose beaucoup de questions pour rester à Sarcelles, le rôle d'un élu, c'est de protéger cette communauté et de la défendre.
Par quel moyen?
Mais en étant présent, en affirmant haut et fort qu'on ne laissera pas faire, en la défendant et en favorisant son développement, parce que c'est comme ça que la communauté reste à Sarcelles si elle a le sentiment que les élus sont là pour l'aider. Et il faut aider la communauté juive. On ne peut pas dire qu'on veut lutter contre l'antisémitisme et ne pas aider la communauté juive. Pareil, j'ai pris des positions très fortes parce que je pense que l'État d'Israël a le droit de vivre en paix, que son existence ne doit pas être remise en question. Et j'affirme haut et fort que je suis un ami de l'État d'Israël.
Je reviens aux questions que j'ai posées tout à l'heure. Vous êtes député de la République, à la circonscription de loi. Vous êtes un membre important du paysage politique français. Pourquoi la France continue à condamner régulièrement Israël? Pourquoi, devant des actes antisémites qui ont pourtant augmenté de façon exponentielle, on ne fait rien? La justice, pareil. Il y a quelque chose qui...
Mais pour une raison très simple. Par rapport à l'antisémitisme, je pense que la France est dans une forme de déni. La France a du mal à entendre, à accepter qu'elle est antisémite.
Mais vous réagissez pas... vous réagissez évidemment contre ça, mais il n'y a pas d'écho de vos amis dans la députation, à l'Assemblée.
Mais vous savez... Si vous avez suivi le débat sur la nouvelle antisémitisme à l'Assemblée nationale, nous avons été majoritaires difficilement. Et nous ne sommes plus nombreux dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale à défendre et la communauté juive et l'État d'Israël. Et c'est bien le problème. Et ce que je trouve un peu fort de café, c'est qu'effectivement, mes adversaires, qui sont tous, pour certains, et la plupart issus de la diversité, me mettent en cause en disant que je fais du communautarisme pour les juifs. Et aujourd'hui, oui, j'assume complètement. Et je répète, j'ai dans ma circonscription plus d'électeurs de confession musulmane que de confession. Donc c'est pas un calcul politique que je fais. C'est un calcul courageux de dire j'assume ce que je suis. Je pense que la communauté juive a toute sa part en France et qu'il est impensable qu'un juif quitte la France parce qu'il considère qu'il ne peut plus être protégé dans son pays. Et je pense que l'État d'Israël a le droit de vivre en paix et le droit d'exister. Je le dis au FR. Certains me disent, voilà, il est vendu aux juifs. C'est pas admissible dans notre pays. Ce qui n'est pas admissible non plus, c'est que ceux qui disent ça ne sont jamais mis en cause. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais moi, je ne changerai pas d'avis. j'ai épousé le combat de la lutte contre l'antisémitisme et de la défense de l'État d'Israël il y a plus de 40 ans. Il n'est pas question pour moi de changer, même si cela doit me coûter des résultats et mes mandats électifs.
Vous êtes conscient que vous pouvez être battu par l'islam radical
ou pas ? Bien entendu. Vous savez, les musulmans radicaux viennent régulièrement me voir dans mon bureau en me disant « Monsieur Pupponi, vous inquiétez pas, nous serons de plus en plus nombreux et un jour on vous mettra dehors ». Ils me le disent, ils ne s'en cachent pas. Je suis quelque part l'homme à abattre et je le sais. Mais voilà, dans la vie, on fait de la politique avec des convictions et j'ai mes convictions.
C'est par ces mots qu'on va terminer cette interview que je remercie de m'avoir accordé. François Pupponi, Les Émirats de la République, comment les islamistes prennent la possession de la banlieue aux éditions Les Cerfs. On va juste dire qu'on a enregistré cette interview à Sarcelles.
Tout à fait.
Au délice, c'est pour ça qu'on entend d'ailleurs un peu de bruit. Je vous remercie énormément d'avoir accepté.
Merci à vous.